Chapitre 74. Dolman Island, mardi 16 juin 1981. Dans le silence qui suivit le départ de l'hélicoptère de Barent, l'Oberst demeura immobile, les mains dans les poches.
« Eh bien, » dit-il à Saul, « il est temps de nous dire bonne nuit, mon petit pion. »
« Je croyais avoir été promu au rang de fou. »
L'Oberst gloussa et se dirigea vers l'imposant fauteuil de Barent.
« Quand on est pion, c'est pour la vie, »
dit-il en s'asseyant avec autant de grâce qu'un roi s'installant sur son trône. Il lança un regard à Reynolds, qui vint prendre position près de lui. Saul ne quittait pas l'Oberst des yeux, mais il aperçut Tony Harrod qui rampait dans l'ombre et posait la tête de sa secrétaire sur ses genoux. L'homme poussa un miaulement pitoyable.
« Ce fut une journée fort productive, Nine, » dit l'Oberst.
Saul resta muet.
« Herr Barent m'a dit que vous aviez tué au moins 3 de ces hommes cette nuit, » poursuivit l'Oberst avec un sourire en coin. « Quel effet ça fait d'être un assassin, Yuda ?»
Saul mesura la distance qui les séparait. 6 cases, plus environ 2 mètres. Soit à peu près 9 mètres. Une douzaine de pas.
« C'était des innocents, » insista l'Oberst, « de simples salariés. Ils laissent sûrement des veuves et des orphelins. Ça ne vous trouble pas, juif ?»«
Non. »
L'Oberst arquait un sourcil.
« Tiens, vous avez donc fini par comprendre qu'il est parfois nécessaire de tuer les innocents. Sehr gut. J'avais peur de vous voir aller au tombeau, habité par le sentimentalisme écœurant qui était le vôtre lorsque nous nous sommes connus, mon petit pion. C'est un grand progrès. Tout comme Israël, votre nation de bâtards, vous avez appris qu'il était parfois nécessaire de massacrer des innocents pour assurer sa survie. Imaginez le fardeau que représente pour moi cette nécessité, mon petit pion. Les gens nés avec mon talent sont fort rares. Peut-être pas plus d'un sur plusieurs centaines de millions, pas plus d'une douzaine par génération. Ma race a été redoutée et persécutée durant toute l'histoire de l'humanité. Dès que nous faisons la démonstration de notre supériorité, les masses stupides nous traitent de sorciers ou de démons et nous détruisent impitoyablement. Nous avons grandi en apprenant à dissimuler l'éclat de notre différence. Et si nous survivons aux attaques du troupeau apeuré, c'est pour devenir la proie de nos rares semblables. Le problème, quand on est requin dans un banc de thon, c'est que dès qu'on rencontre un autre requin, on est obligé de défendre son terrain de chasse, hein? Tout comme vous, je suis avant tout et en fin de compte un survivant. Vous et moi, nous sommes plus semblables que nous n'aimerions l'admettre. Pas vrai, mon petit pion?
« Non, »
dit Saul.
« Non ? » ?»«
Non.
Je suis un être humain civilisé, et vous êtes un requin, une machine à tuer, un charognard dénué d'intelligence autant que de sens moral, une obscénité de l'évolution qui ne sait que mâcher et avaler.
« Vous cherchez à me provoquer, » dit l'Oberst avec un rictus.
« Vous avez peur que je ne prolonge votre agonie. »
« Rassurez-vous, mon petit pion, votre mort sera rapide, et elle est toute proche. »
Saul inspira profondément, essayant de lutter contre l'épuisement physique qui menaçait de le terrasser. Ses blessures saignaient toujours, mais la douleur avait laissé la place à un engourdissement qui lui paraissait 1000 fois plus sinistre. Il savait qu'il ne lui restait que quelques minutes pour passer à l'action. L'Oberst n'avait pas achevé sa tirade.
« Tout comme Israël, vous cherchez à donner des leçons de morale, mais votre comportement est digne de la Gestapo. Toute violence est issue de la même source, mon petit pion, le désir de pouvoir. Le pouvoir est la seule morale, juif, la seule divinité éternelle, et l'appétit de violence est son seul commandement. Non. Vous êtes une créature pitoyable et pathétique, qui ne comprendra jamais la morale humaine et le besoin d'amour qui est son fondement. Mais sachez une chose, Oberst. tout comme Israël. J'ai fini par comprendre qu'il existe une morale exigeant un sacrifice et un impératif supérieur à tous les autres. Plus jamais nous ne nous laisserons persécuter par votre engeance et par ceux qui la servent. Une centaine de générations de victimes l'exigent. Nous n'avons pas le choix. »
L'Oberst secoua la tête.
« Vous n'avez rien compris, » cracha-t-il. « Vous êtes aussi stupide et aussi sentimental que vos frères débiles qui sont entrés passivement dans les fours crématoires en souriant, en tiraillant sur leurs bouclettes et en faisant signe à leurs rejetons demeurés de les suivre. Vous faites partie d'une race souillée et sans espoir, et le seul crime du Führer a été de ne pas réussir à vous exterminer jusqu'au dernier comme il avait projeté de le faire. Mais quand je vous tuerai, mon petit pion, cela n'aura rien de personnel. Vous m'avez bien servi, mais vous êtes trop imprévisible. Je n'ai plus l'utilité d'un tel défaut. Quand je vous tuerai, ce sera totalement personnel. »
Saul fit un pas vers l'Oberst. Celui-ci poussa un soupir de lassitude.
« Vous allez mourir tout de suite. Adieu, juif !»
Saul sentit le pouvoir de l'Oberst le frapper de plein fouet, comme un coup de massue sur le cerveau et sur les reins. Une invasion aussi brutale et irrésistible que la pénétration d'un pal en acier trempé. Il sentit sa conscience s'effilocher comme les vêtements d'une femme subissant un viol, et, simultanément, un rythme thêta apparut dans son cerveau, déclenchant la phase de MOR, le privant totalement du contrôle de ses actes, tout comme un somnambule, un cadavre ambulant, un musulman. Mais alors même que la conscience de Saul se réfugiait dans le sombre grenier de son esprit, il percevait la présence de l'Oberst dans son cerveau, puanteur fétide aussi âcre et douloureuse que la première bouffée de gaz empoisonné. Et durant la seconde où il partagea la conscience de l'Oberst, il perçut la surprise de celui-ci, lorsque le passage en état de MOR déclencha le flot de souvenirs et de sensations que Saul avait enfoui dans son subconscient comme des mines dans un champ de blé blanchi par l'hiver. Aussitôt après s'être débarrassé de la conscience de Saul Lasky, l'Oberst se retrouva face à une deuxième personnalité. Une personnalité fragile, créée par hypnose et drapée autour des centres de contrôle nerveux, comme une tunique en papier d'argent se faisant passer pour une armure. Il n'avait rencontré ce phénomène qu'une seule fois dans sa vie, en 1941, lorsqu'il avait participé, avec les Einsatzgruppen, au massacre des patients d'un asile d'aliénés lituaniens. Désœuvré, l'Oberst s'était glissé dans l'esprit d'un schizophrène incurable quelques secondes avant que le pistolet d'un SS lui fracasse le crâne et l'envoie choir dans la fosse glaciale. La seconde personnalité enchâssée dans la première l'avait surpris, mais elle n'avait pas été plus difficile à maîtriser. Cette personnalité artificielle ne lui poserait aucun problème. La petite surprise préparée par le juif était si futile et si pathétique que l'Oberst sourit et gaspilla quelques secondes à savourer l'œuvre de Saul avant de la détruire. Mala Kagan, 23 ans, porte dans ses bras Edek, sa fille âgée de 4 mois sur le chemin des fours crématoires d'Auschwitz. Elle serre dans son poing droit une lame de rasoir qu'elle dissimule depuis plusieurs mois. Un officier SS se fraye un chemin parmi les femmes nues qui s'avancent avec lenteur.
« Qu'est-ce que tu tiens dans ta main, catin juive? Donne-moi ça !»
Jetant son bébé dans les bras de sa sœur, Mala se tourne vers le SS et desserre les doigts.
« Prends ça !»
s'écrie-t-elle en lui labourant le visage. L'officier recule en chancelant, du sang jaillit entre ses doigts levés. Une douzaine de SS braquent leurs armes sur Mala quand elle s'avance vers eux, la petite lame coincée entre le pouce et l'index.
« La vie !»
s'écrie-t-elle au moment où les mitraillettes entrent en action. Saul sentit le mépris de l'Oberst et sa question muette.
« Tu veux m'effrayer avec des fantômes, mon petit pion ?»
Saul avait passé 30 heures à recréer par hypnose l'ultime minute de Mala Kagan. L'Oberst anéantit sa personnalité en une seconde, sans plus d'effort que s'il avait écarté une toile d'araignée de son visage. Saul avança d'un pas. Sans se laisser démonter, l'Oberst pénétra de nouveau dans son esprit et chercha à en atteindre les centres de contrôle, déclenchant à nouveau la phase de MOR. Shalom Krasdzek, 62 ans, rampe à quatre pattes dans les égouts de Varsovie. Il fait noir comme dans un four, et des excréments se déversent sur les survivants silencieux, chaque fois qu'une toilette aryenne est actionnée au-dessus de leur tête. Shalom s'est réfugié dans les égouts 14 jours plus tôt, le 25 avril 1943, après avoir passé 6 jours à lutter désespérément contre des troupes d'élite nazie. Il est accompagné de Léon, son petit-fils âgé de 6 ans. C'est le seul survivant d'une famille jadis nombreuse. Le petit groupe de Juifs a rampé pendant 2 semaines dans le labyrinthe de passages étroits et puants, pendant que les Allemands arrosaient toutes les latrines et toutes les bouches d'égout du ghetto à la mitraillette, au lance-flammes et à la grenade. Shalom avait sur lui 6 croutons de pain qu'il a partagés avec Léon, tapis dans les ténèbres et les excréments. Pendant 14 jours, ils se sont cachés, ils ont rampé, tentant de franchir les murailles du ghetto, buvant goutte à goutte ce qu'ils espéraient être de l'eau de pluie. Ils ont survécu. Et voilà qu'on soulève une plaque d'égout au-dessus de leur tête. Voilà qu'apparaît le visage buriné d'un résistant polonais.
« Venez, sortez de là! Vous êtes en sécurité ici !»
Rassemblant ses forces, aveuglé par le soleil, Shalom émerge du conduit en rampant et s'effondre sur le pavé. 4 autres survivants le suivent. Léon n'est pas parmi eux. Les joues inondées de larmes, Shalom essaie de se rappeler quand il lui a parlé pour la dernière fois. Il y a 1 heure? 1 journée? Écartant faiblement les mains de ses sauveteurs, Shalom redescend dans le conduit obscur et rebrousse chemin en rampant sans cesser d'appeler Léon. L'Oberst anéantit la membrane protectrice qu'était Shalom Krasdzek. Saul avança d'un pas. L'Oberst s'agita sur son siège et frappa le crâne de Saul aussi violemment qu'une hache. Peter Guine, 17 ans, dessine assis dans un coin pendant qu'une longue file de jeunes garçons se dirige vers les douches d'Auschwitz. Durant les 2 années qu'il a passées à Terezin, Peter a produit avec ses amis un journal intitulé « Vedem »,« Nous guidons », où il publiait poèmes et dessins. Avant d'être transféré ici, il en a confié la collection complète, 800 pages, au jeune Zdenek Tausig, qui avait pour mission de la dissimuler dans la vieille forge près du baraquement Magdebourg. Peter n'a pas revu Zdenek depuis leur arrivée à Auschwitz. À présent, il consacre son dernier fusain et son dernier bout de papier à croquer les innombrables garçons nus qui défilent devant lui dans l'air glacial de novembre. D'une main assurée, Peter dessine les côtes saillantes, les yeux vitreux, les jambes squelettiques, les mains protégeant pudiquement les testicules contractés par la peur. Un capot chaudement vêtu et armé d'un gourdin se dirige vers lui.
« Qu'est-ce que ça veut dire? Rejoins les autres !»
Peter ne quitte pas son œuvre des yeux. « Dans 1 minute, j'ai presque fini. » Furieux, le capot le frappe au visage et lui écrase la main à coups de talon, lui brisant 3 doigts. Il agrippe Peter par les cheveux, l'oblige à se lever, et le pousse brutalement vers la file qui avance avec lenteur. Palpant sa main douloureuse, Peter se retourne et voit son dessin emporté par la bise de novembre, s'accrocher quelques instants au barbelé de la haute clôture, puis s'envoler, libre, vers la forêt à l'ouest. L'Oberst écarta promptement Peter Guine. Saul avança de 2 pas. Le viol mental commis par l'Oberst lui faisait l'effet de 2 pointes d'acier plongées dans les yeux. Dans les cellules de Birkenau, une nuit avant d'être gazé, le poète Isaac Katznelson récite un poème à son fils âgé de 18 ans et à 12 d'autres silhouettes blotties dans les ténèbres. Avant la guerre, Isaac était connu dans toute la Pologne pour ses poèmes humoristiques et ses chansons destinées aux enfants, qui célébraient tous les joies de la jeunesse. Ses deux plus jeunes enfants, Benjamin et Bension, ont été assassinés en même temps que leur mère à Treblinka 18 mois auparavant. Il récite son dernier poème en hébreu, une langue inconnue de tous ses compagnons hormis son fils, puis le traduit en polonais. J'ai fait un rêve horrible. Mon peuple avait péri. Je me réveille en criant. Ce que j'ai rêvé est bien vrai, c'est bien arrivé. Ça m'est arrivé. Dans le silence qui suit, le fils de Isaac rampe sur la paille pour s'approcher de lui.
« Quand je serai plus vieux, murmure-t-il, j'écrirai moi aussi de grands poèmes. »
Isaac passe le bras autour des épaules malingres de son fils.
« Oui, »
dit-il, et il entonne une vieille berceuse polonaise. Les autres prisonniers se joignent à lui, et le baraquement s'emplit bientôt d'une douce mélodie. L'Oberst détruisit Isaac Katznelson d'une pichenette. Saul avança d'un pas. Stupéfié par ce qu'il observait, Tony Harrod avait l'impression que Saul Lasky se dirigeait vers Willy en luttant contre les assauts d'un vent violent. Quoique silencieuse et invisible, la bataille que se livraient les deux hommes était aussi tangible qu'une tempête électrique. À l'issue de chaque escarmouche, le juif levait une jambe, l'avançait et posait le pied sur le carreau comme un paraplégique apprenant à marcher. Il avait ainsi franchi 6 cases et atteint la dernière rangée de l'échiquier lorsque Willy sembla se ressaisir, émergea de sa songerie et jeta un regard à Tom Reynolds. Le tueur blond bondit en direction du juif, levant vers lui ses mains d'étrangleur. À 4 ou 5 kilomètres de là, l'Antoinette explosa avec assez de force pour briser plusieurs vitres du manoir. Ni Willy ni Lasky ne remarquèrent quoi que ce soit. Harrod regarda les 3 hommes se rejoindre, regarda Reynolds étrangler Lasky et entendit de nouvelles explosions retentir du côté de l'aéroport. Tout doucement, il posa la tête de Maria Chen sur le carreau glacial, lui lissa les cheveux, se leva et contourna lentement les 3 silhouettes entremêlées. Saul était à 2,50 mètres de l'Oberst lorsque le viol mental s'interrompit. On aurait dit que quelqu'un venait de stopper un incroyable bruit lancinant qui emplissait le monde. Saul vacilla et faillit s'effondrer. Il reprit le contrôle de son corps comme s'il était revenu dans la maison de son enfance, un peu triste, hésitant, conscient des années-lumière qui le séparaient de cet environnement jadis familier. Durant plusieurs minutes, une éternité, Saul et l'Oberst avaient presque été une seule et même personne. Au cours de ce déchaînement d'énergie mentale, Saul avait pénétré l'esprit de l'Oberst autant que celui-ci avait pénétré le sien. Saul avait senti la monumentale arrogance du monstre laisser la place à l'incertitude, puis à la peur, lorsque l'Oberst s'était rendu compte qu'il n'affrontait pas une poignée d'adversaires, mais une véritable armée. Une légion de morts surgissant des fosses communes qu'il avait aidé à creuser et lançant un ultime hurlement de défi à son visage. Saul lui-même avait été stupéfié, presque terrifié, par les ombres qui avançaient à ses côtés, qui se dressaient pour le défendre avant d'être rejetées dans les ténèbres. Il se rappelait avoir construit nombre d'entre elles, à partir d'une photo, d'un dossier, d'un objet pieusement conservé au Yad Vashem, mais d'autres lui étaient inconnus. Le jeune chantre hongrois, le dernier rabbin de Varsovie, l'adolescente transylvanienne qui s'était suicidée le jour du Grand Pardon, la fille de Theodor Herzl, qui était morte de faim à Theresienstadt, la petite fille de 6 ans tuée par des femmes de SS à Ravensbrück. D'où sortait-il? L'espace d'une seconde de terreur, prisonnier de ses propres circonvolutions cérébrales, Saul se demanda s'il n'avait pas accédé à une impossible mémoire raciale qui transcendait ses 100 heures de séances d'hypnotisme et ses longs mois de cauchemars librement consentis. La dernière personnalité écartée par l'Oberst était Saul Lasky lui-même, à 14 ans, en train de regarder impuissant son père et son frère Joseph se dirigeaient vers les douches de Remno. Mais cette fois-ci, quelques secondes avant que l'Oberst ne les bannisse de son esprit, Saul se rappela ce qu'il ne s'était pas autorisé à se rappeler jusque-là. Son père se retourne, tenant Joseph au creux de son bras, et s'écrie en hébreu « Entends-moi, ô Israël, mon fils aîné survit !» Et Saul, qui pendant 40 ans avait imploré le pardon de ce péché impardonnable entre tous, vit s'éclairer le visage de la seule personne capable de le dispenser. Saul Lasky, à 14 ans. Saul chancela, se ressaisit et se précipita sur l'Oberst. Tom Reynolds s'interposa, levant vers sa gorge des mains robustes. Saul l'écarta d'un geste, soudain investi de la force de sa légion d'alliés, et franchit le dernier mètre qui le séparait de l'Oberst. Il eut le temps d'entrevoir un visage décomposé, des yeux bleus pâles écarquillés, puis il bondit sur le vieil homme. Ses doigts se refermèrent autour d'une gorge flétrie, et le trône de l'Oberst tomba à la renverse sous le poids des 3 hommes à présent entremêlés. Herr General Wilhelm von Borchert était un vieil homme, mais il y avait encore de la force dans les bras qui martelaient Saul, lui écrasaient le visage et le torse, tentaient désespérément de résister à son attaque. Saul ne sentait pas leurs coups. Il ne sentait pas le genou qui lui défonçait le ventre. Il ne sentait pas les poings de Tom Reynolds qui s'acharnaient sur son dos et sur sa nuque. La masse du pion accentuait encore la puissance de ses bras tendus, de ses doigts qui cherchaient la gorge de l'Oberst, se refermaient sur elle, se joignaient sur la nuque rasée. Il savait qu'il ne lâcherait pas prise tant que l'Oberst serait encore en vie. L'Oberst frappait, se débattait, griffait, visant les yeux de Saul après avoir échoué à dénouer ses doigts. La salive jaillissant de sa bouche béante inondait les joues de Saul. Le visage de l'Oberst passa du cramoisi à l'écarlate, de l'écarlate au pourpre, et sa poitrine se souleva par spasme. Saul sentit une force surnaturelle lui parcourir les bras lorsque ses mains s'enfoncèrent dans la chair de l'Oberst. Les talons du vieil homme martelaient les pieds du trône renversé. Saul ne remarqua pas l'explosion qui fit sauter la porte-fenêtre et toutes les vitres encore intactes de la pièce, projetant sur lui une averse de verre brisé. Il ne remarqua pas la bombe qui détruisit les étages supérieurs du manoir et incendia les vieilles poutres en cyprès, emplissant la grande salle d'une épaisse fumée. Il ne remarqua pas l'acharnement redoublé avec lequel Reynolds lui décochait coups de poing, de griffes et de pieds, tel un jouet mécanique pris de démence. Il ne remarqua pas l'intervention de Tony Harrod, qui revint du buffet avec 2 magnums de Dom Pérignon 1971 et en fracassa un sur la nuque de Tom Reynolds. Le pion s'écarta de Saul, inconscient mais toujours secoué de spasmes, agité de tremblements nerveux engendrés par les ordres de l'Oberst. Harrod s'assit sur une case noire, déboucha le second magnum et but une longue gorgée de champagne. Saul ne remarqua rien. Ses mains enserraient la gorge de l'Oberst, et il raffermit encore son étreinte, ne prêtant aucune attention au sang qui coulait de son visage lacéré pour asperger le visage pourpre et les yeux exorbités de l'Oberst. Une période de temps impossible à mesurer s'écoula avant que Saul ne comprenne que l'Oberst était mort. Ses doigts étaient si profondément enfoncés dans la gorge du monstre que même lorsque ses mains s'arrachèrent à la chair morte, elles y laissèrent de larges sillons, telles les empreintes d'un sculpteur dans l'argile encore humide. La tête de Willy était rejetée en arrière, son larynx broyé comme du plastique friable, ses yeux aveugles et protubérants enchâssés dans un visage noir et bouffi. Tom Reynolds gisait sur une case voisine, caricature grotesque du masque mortuaire de son maître. Saul sentit ses dernières réserves de force le fuir, comme de l'eau goûtant d'une outre percée. Il savait que Harrod était quelque part dans la pièce et qu'il fallait s'occuper de lui. Mais pas tout de suite. Peut-être jamais. Avec la conscience revint la douleur. Son épaule droite était cassée, saignait abondamment, comme si des éclats d'os étaient en train de s'y concasser. Son sang recouvrait le visage et le torse de l'Oberst, faisant ressortir sur la gorge broyée l'empreinte pâle de ses mains. Deux nouvelles explosions secouèrent le manoir. Des tourbillons de fumée envahissaient la grande salle, et 10 000 éclats de verre reflétaient la lueur des flammes. Saul sentit une vague de chaleur inonder son dos et sut qu'il devait se lever, localiser le foyer d'incendie et s'en aller. Mais pas tout de suite. Saul posa la joue sur la poitrine de l'Oberst et s'abandonna aux effets de la pesanteur. Il entendit un nouveau bruit derrière la porte-fenêtre fracassée, mais ne lui accorda aucune attention. Il avait besoin d'un bref répit, d'une petite sieste avant de se remettre en route. Il ferma les yeux et laissa les chaudes ténèbres l'engloutir.